voix nue. Toute cette semaine, Maïlys Besseri rencontre Jacques Attali. Ce soir, en créant, en écrivant.
Jacques Attali, bonsoir.
Bonsoir.
Vos activités de conseil auprès du président Mitterrand, votre rôle de Sherpa, mais aussi les actions que vous avez menées contre les inondations au Bangladesh, la création et la présidence de la BERD témoignent de la dimension internationale qu'a pris votre travail au cours du temps. Une action qui a notamment pris forme autour de la création de structures et d'ONG. On va peut-être commencer par rappeler ce qu'était la BERD et revenir sur les grandes étapes de cette idée.
La BERD, c'est une institution internationale qui avait la particularité de rassembler les deux parties de l'Europe, et une originalité qui n'existait dans aucune institution internationale à l'époque, qui est d'avoir une conditionnalité démocratique, et donc politique, à l'octroi des prêts. La Banque mondiale et le Fonds monétaire se moquaient comme une guigne de la situation politique des pays où ils intervenaient, tandis que quand on a fondé la BERD, l'idée était tout de suite de dire que c'était une institution qui aiderait à la transition vers la démocratie de ces pays. Et donc les prêts, les activités seraient fonction d'une analyse politique de ce qui s'est passé. C'est dans cet esprit que la négociation a commencé. Et c'est une négociation très intéressante parce qu'elle explique beaucoup de choses de la situation géopolitique de l'époque et d'après. Donc François Mitterrand préside l'Europe jusqu'en fin décembre 89. Il y a trois lignes dans le communiqué qui l'autorise. Et nous perdons à partir de janvier la présidence de l'Europe pour l'Irlande et la présidence de G7 pour les États-Unis. Donc c'est terminé. Pour autant, on fait un petit coup de force, un grand coup de force, c'est-à-dire qu'avant 31 décembre, et tout ce qui va suivre, je l'avais précisé en détail, toutes les étapes ont été prévues avec François Mitterrand, donc il m'a laissé ensuite carte blanche pour les mener avec son accord. Il écrit une lettre avant fin décembre, donc puisqu'il est président encore, premièrement à tous les membres de l'OCDE, deuxièmement à tous les membres du pendant de l'OCDE qui était le COMECON, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Est, tous communistes encore, hein, personne ne parle de la fin de l'Union soviétique, pour leur proposer de se réunir à Paris le 14 ou 15 janvier suivant pour commencer la négociation de la création de la BERD. Avec, on annexe à la lettre, et c'est une des choses que j'avais appris en diplomatie, c'est que la meilleure façon de gagner une négociation, c'est que la négociation se passe sur votre texte. Et donc en annexe à la lettre, il y avait un projet de traité de la BERD que j'avais écrit avec un de mes amis qui était à l'époque directeur du Trésor, Jean-Claude Trichet, et quelques experts. Donc il y avait déjà une certaine réalité puisqu'il y avait un projet de traité. J'envoie cette lettre. Enfin, il envoie cette lettre. Et 10 jours plus tard, il y a une première réunion des Sherpas. Je me souviens, c'était dans une île à côté de Miami, où je m'attends à me faire tuer par les Américains et les Anglais et tous, que d'avoir osé, sans aucun mandat, convoquer une réunion à Paris alors qu'on n'a aucune raison de le faire. Et surtout d'avoir invité les pays de l'Est. Donc, cette réunion a lieu, on parle du prochain sommet aux États-Unis, mais personne ne me parle de cette lettre. Et à la fin, l'Américain dit, tiens, on se retrouve à Paris dans 8 jours. Je dis, avec plaisir. On sera nombreux, je dis. Comment ça, nombreux? Et là, je me rends compte qu'ils avaient compris que cette lettre n'avait été envoyée qu'à eux, comment du G7, avec cette superbe américaine et occidentale qui était en négocié entre nous, Pierre Pontverin. Quand je leur ai dit que c'était tout l'OCDE, ça a déjà explosé, et quand en plus je leur ai dit que j'avais invité l'Union soviétique et tous ses satellites, c'était un crime de lèse-majesté absolu. Donc ils m'ont dit, on viendra pas. Ta réunion, tu la feras tout seul parce que nous, on sera pas là. Et là, j'avais mandat de François Mitterrand, c'est pas grave, on la fera quand même. Et la réunion avait lieu 8 jours plus tard. 10 jours plus tard. Hystérie. Non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, tu dois annuler, tu peux pas faire... Bon, enfin, je dis tu, mais en fait, tout ça se passe en anglais, donc c'est pas tu. Et puis, les 8 jours suivants, ils ont passé tout leur temps à essayer de convaincre tout le monde de pas venir, et puis finalement, tout le monde est venu, et à la fin, ils sont venus aussi. Donc, les Américains, les
Anglais...
Par crainte que ça se passe sans eux. Pour, comme toujours, la volonté de tuer le truc en étant dedans. Puis, c'est plus facile de tuer quelque chose en étant dedans qu'en étant dehors. Et là, la réunion commence à couper au couteau. D'abord, il y a les gens de l'Est qui sont là, ça se passe avenue Kléber. Je me souviens, mes premiers souvenirs, c'est que ces gens, dont plusieurs sont devenus ensuite Premier ministre, Président de la République, ministre des Finances, c'était là, et puis ils découvraient Paris. C'est l'Est, hein, encore. Et je me souviens, ils ont découvert les bananes. Ils ne connaissaient pas les bananes, ils découvraient les fruits, ils découvraient toute une série de choses qui étaient très étranges. J'ai encore des photos de cette découverte. Tous ces chefs, et sentant que l'ambiance est à couper au couteau, j'invite à dîner le samedi, au milieu de la négociation, à l'hôtel Raphaël, juste à côté, le ministre adjoint des Finances américain et le gouverneur de la Banque centrale soviétique. C'est juste pour raconter comment les rapports humains peuvent changer les choses. L'américain est froid, sec, il a mandat de casser la négociation. Le russe brillantissime, Gerashenko. L'américain s'appelait David Mulford. Et l'américain méprisant, très intelligent, un grand serviteur de l'État, dit, écoutez, vous me dites n'importe quoi, vous êtes incapable de changer votre pays, vous êtes une dictature communiste. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous pouvez privatiser vos banques demain? Le soviétique réfléchit, dit, ah non, je peux pas demain. Ben voyez, je peux pas demain parce que demain c'est dimanche. L'Américain part dans un éclatoir, on rit tous, et c'était fini. C'est-à-dire que c'était devenu une relation humaine, de connivence, et la négociation a vraiment commencé. Juste par cette petite anecdote. Bon, puis ensuite, la négociation s'est terminée. Moi, je ne voulais pas présider cette banque. J'avais tout fait pour qu'elle soit à Paris. J'avais d'ailleurs trouvé un immeuble, boulevard Haussmann, où la banque devait s'installer, et j'avais accepté, étant président de la conférence de négociation, j'avais accepté que la présidence aille au ministre des Finances hollandais de l'époque, M. Wim Kok. Et puis, quelqu'un, qui était ministre des Affaires européennes, Mme Edith Cresson, vient voir François Mitterrand et dit « J'ai appris que si vous acceptiez que la banque soit à Paris, nous allons perdre le Parlement à Strasbourg. » François Mitterrand me dit « Moi, je ne veux pas perdre le Parlement à Strasbourg. » Je dis « Mais c'est complètement idiot, on ne va pas perdre le Parlement à Strasbourg. Le Parlement, c'est une institution européenne, là, c'est pas une institution communautaire. Aucun risque. Non, je ne veux pas de cette situation à Paris. » Je dis « Mais enfin, on a tout négocié, c'est une idée française. On ne peut pas ne pas l'avoir. » Je dis « Cette banque va aller à Prague ou à Londres, qui étaient les deux pays qui étaient concurrents pour l'avoir, avec Paris, mais qui étaient concurrents purement symboliques. Ils savaient que ça était à Paris, puisque tout se passait à Paris. Non, débrouillez-vous, je ne veux pas. » Et là, je dis, écoutez, si vous n'y allez pas, il faut qu'au moins on ait quelque chose qui rattache à la France, c'est que la présidence soit française. Ben oui, on trouvera un français. Je dis, mais tu sais, si ce n'est pas moi, on risque de le perdre. Il dit, mais vous n'allez pas y aller. Je dis, écoutez, je suis forcé d'y aller, au moins pour un an, parce que si j'y vais pas, on va le perdre et on aura fait tout ça pour rien. Moi, vous n'irez pas. Ben, je dis, écoutez, je lui réponds, je vais y aller parce que j'espérais qu'il me dise, bon, ben, vous n'y allez pas et on va garder la banque à Paris. Il ne me dit pas ça. Donc, on s'est trouvé là, lui et moi, coincés dans une sorte
de... Dans vos stratégies, ouais. Chacun.
Et donc, on tient, chacun dans un bras de fer. Moi, j'espère qu'il va céder. Lui, il espère que je vais céder. Et puis, naturellement, il n'a pas cédé. Donc, moi, j'étais obligé de dire... je suis candidat. Ce qui était à la présidence. Je ne voulais pas le faire. Ma vie personnelle était à Paris. Mes enfants étaient jeunes. J'avais aucune envie d'aller à Londres. Puisque c'est Londres qui a immédiatement emporté sur Prague. Qui était encore un pays communiste. Il y avait Vienne aussi qui était candidat, mais moi, qui aurait été mieux parce que les distances sont moins grandes avec l'Europe de l'Est. Londres, c'est l'endroit le pire pour se mettre pour une banque qui travaille à l'Est. Donc, on accepte Londres et je suis candidat, ce qui est une trahison parce que j'avais accepté la présidence hollandaise. Donc, déjà, je me fais un nombre d'ennemis incalculable. Les Américains, parce que je les ai violés en créant cette institution. Les Anglais, parce que... Ils étaient alliés des Américains, les Allemands, parce qu'ils ne voulaient pas de cette banque, ils voulaient que tout le pouvoir soit à la Banque européenne d'investissement dont ils avaient la présidence. Tout le monde était monté contre moi.
Ça va d'ailleurs être tout un tas de problèmes pour vous, cette présidence de la Berger Catelli.
Immédiatement, parce que quand j'arrive à Londres pour la conférence inaugurale préparatoire, le jour où j'arrive, il y a deux pages dans Newsweek. Qui me compare à Louis XIV, tout y était, tout ce qui a suivi était déjà là, parce que les anglo-saxons, c'est une machine assez stalinienne en termes de communication. Il y a des agences qui préparent ça, et tout ça est très organisé, et donc la presse anglaise, comme la presse américaine, suit des consignes.
Donc le bashing était prêt ?
Prêt. Et l'article du Newsweek, c'est du mois d'avril 90, On l'a vu en boucle répété pendant 3 ans ensuite.
Il faut expliquer, ce bashing, c'était autour du financement de l'immeuble,
oui,
qui a été refait.
Vous
avez été accusé d'avoir dilapidé l'argent,
oui, c'était
de la berde.
Une accusation totalement absurde. Premièrement, parce que le financement de ce siège avait été financé par un argent spécial mis à part, tout à fait clairement isolé, que le budget n'a pas été dépassé, que l'équipe qui gérait ce budget, c'est pas moi, j'en étais pas dedans, donc ça a été géré indépendamment de moi, mais bon, il s'agissait de trouver une raison de... Et on m'a reproché, à moi, alors que c'était pas moi qui étais responsable, d'avoir mis du marbre dans les couloirs, imaginez, comme si c'était vraiment original de mettre du marbre dans les couloirs d'une banque. Il y en avait dans tous les couloirs, toutes les banques de Londres et de Paris. Bon. Mais moi, de toute façon, je me l'étais mis dans ma tête, je resterai 2 ans. Au départ, j'avais dit 1 an, puis je restais 2 ans, puis en fait, je suis resté 3 ans. Je suis parti. François Mitterrand m'a dit, ne partez pas, restez. Mais quand il a commencé à avoir des accusations, il y a eu un article dans la presse anglaise disant qu'il y avait 4 collaboratrices de la banque qui étaient enceintes de moi, avec leurs photos. Quand j'ai reçu des petits cercueils... à l'hôtel où j'habitais, parce que j'habitais à l'hôtel à ce moment-là à Londres, j'ai trouvé que ça commençait à bien faire, quoi. Donc je les ai laissés à leurs ébats.
Voilà. Gattali, vous qui aviez jusque-là refusé les mandats, ça vous a un peu vacciné, ce passage à la berde, cette présidence ?
Non, parce que c'était le prix à payer pour que cette institution existe. Non, pas du tout.
C'est-à-dire le fait d'être à l'initiative d'un certain nombre de projets, de création de structures, mais de ne pas en être le gestionnaire direct.
Je l'ai refait avec Planète, où j'étais président et où je suis toujours président de cette institution qui se développe. Mais la leçon que ça m'a donnée, c'est qu'il ne faut pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Or... C'est comme quelqu'un qui épouse quelqu'un qui n'a pas envie d'épouser, quoi. Et qui serait... Ça marche pas. Bon. Ça, c'est pas un souvenir personnel. Mais il faut pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et là, depuis le premier jour, je traînais des pieds, j'avais pas envie d'y aller. D'ailleurs, la première conférence de presse à Londres, quand on m'a demandé « Vous êtes qui pour présider cette banque ?», j'ai répondu « I am a scholar and I know that in English it's a dirty word. » Je suis un intellectuel et je sais qu'en anglais, c'est une insulte. Et la presse anglaise avait fait ses choux gras de cette phrase. Et puis, il y avait plein de choses. On ne pouvait pas, dans la presse anglaise, même le Financial Times qui mentait tout le temps, l'économiste qui manquait tout le temps, on ne pouvait pas parler de moi sans que Jacques Attali, fils d'un commerçant juif algérois. Donc, c'était tout le temps répété. Tout le temps. Donc, l'antisémitisme était très présent.
La création de structures à l'international, ça va être l'objet de beaucoup de vos activités. Vous avez parlé d'action contre la faim, mais il y a aussi eu cet épisode du Bangladesh,
oui,
sur lequel on est passé un peu vite,
oui,
qui peut-être mérite d'être raconté.
Oui, parce que ça a donné la suite. Il y a eu d'abord Eureka, où face à la guerre d'étoiles américaine, j'ai eu l'idée de créer une institution qui répondrait à la tentative américaine d'aspirer les technologies européennes en créant une structure qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, qui rassemble les entreprises privées et les États dans la mise en œuvre des technologies. C'est d'ailleurs dans cette structure qu'on a inventé le MP3 ou la première carte du génome. Enfin, beaucoup de choses ont été faites par ça. Puis ensuite, en effet, c'est lié à... En permanence, François Mitterrand comme moi, on se disait qu'est-ce qui restera de ce qu'on fait dans 30 ans. Et en 88, il y a eu des inondations épouvantables dans un pays que je ne connaissais pas, qui était le Bangladesh. Et je me suis dit, peut-être que dans 20 ans, mes enfants me diront, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as rien fait face à ça? Donc j'ai décidé d'y aller, de voir ce qu'on pouvait faire. Et c'était juste avant la berce. C'est juste avant la chute du mur de Berlin, c'est pendant cet été 89. Au fond, 89 est une année où il s'est passé énormément de choses. La chute du mur, le sommet de l'Arche, le roman, mon premier roman, La vie éternelle, la création de la Verte, c'est une année très, très riche pour moi. Et donc j'y vais, très très vite, dans une sorte de blitzkrieg, je vois ce qu'il faut faire avec une équipe de techniciens, et je vois surtout que les Bangladeshis sont des gens exceptionnels, qui connaissent parfaitement ce qu'il faut faire, parce qu'ils sont des experts de l'eau incroyables, mais qu'il y a 3 fleuves, enfin 2 fleuves et demi, Meghna, Gange et Brahmapoutre, qui déboulent depuis l'Himalaya là, et qui prennent des proportions énormes et qui inondent, et que la seule chose à faire, c'est de faire des digues, le long du fleuve pour protéger les gens qui sont de dehors et les gens, pas les gens qui sont dedans, parce qu'il y a des gens qui habitent dedans, mais les faire sortir. Donc il faut 7 milliards de dollars. Je fais une conférence, c'est la première fois d'ailleurs que je vais à Londres, à titre personnel, je préside une conférence de fundraising de... Je crois que c'était en, oui, c'était en juillet 89, donc...
Pour tenter de trouver les fonds.
Pour trouver les fonds.
Pour faire l'édition.
Parce que j'avais obtenu du sommet du G7 de l'Arche qu'on le fasse. Mais là encore, c'était, j'avais obtenu ça comme une sorte de formule symbolique. Personne ne pensait qu'on le ferait vraiment. Donc je l'ai fait. Et puis on a trouvé tout de suite 3 milliards et demi. Puis après, comme il y a eu la chute du mur de Berlin, plus personne ne s'est occupé d'autre chose que d'Europe de l'Est. Moi le premier, d'ailleurs. Enfin, avec 3 milliards et demi, on a construit des digues qui protègent encore aujourd'hui une bonne partie du Bangladesh des conséquences des inondations et des débordements des fleuves.
C'était une expérience de mise en pratique de solutions assez simples.
Oui, c'était des choses... Là aussi, c'était...
Grâce à un réseau international, justement, oui. Que vous avez pu activer.
Oui. C'est là où, d'ailleurs, en allant dans ce pays, que j'ai rencontré... un jeune prof d'économie qui
Mohamed
Younous, qui était complètement inconnu, qui avait commencé un petit programme de microfinance. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé ça si intéressant que quand j'ai créé la Baird quelques mois plus tard, le premier programme que j'ai fait à la Baird, c'était un programme de microfinance en Pologne. Je trouvais cette idée remarquable, c'est-à-dire d'aider les plus pauvres à créer leurs entreprises. Et donc, quand j'ai quitté la Baird, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de refaire ce que j'ai fait en Pologne. À l'échelle internationale. C'est là où j'ai eu l'idée de créer Planète Finance, qui aujourd'hui s'appelle Positive Planète.
Dont le fonctionnement, justement, est basé sur cette idée de la microfinance.
Voilà, et d'aider les plus pauvres à créer leurs entreprises, mais au-delà de ça, aujourd'hui, à avoir accès à tous les moyens de la réussite.
Dans les grandes préoccupations qu'on retrouvera ensuite dans votre manière de conseiller et de prévoir, il y a cette question démographique, économique, les questions d'inégalité de revenus dans le monde, qu'on retrouve comme des grandes lignes directrices, Jacques Attali, de votre pensée. Est-ce que à ce moment-là, c'est-à-dire entre la fin des années 80 et le début des années 2000, il y a quelque chose de l'ordre de l'action qui est décidé de votre part suite à votre expérience auprès du président Mitterrand ?
Vous savez, en fait, on est tous marqués par quelque chose. Moi, j'ai toujours été très marqué par trois images. Une en Iran et deux en Afghanistan. En Iran, cette image, je ne l'oublierai jamais. J'étais logé dans un bon hôtel, qui s'appelait le Roosevelt, à Téhéran. Et en sortant, chaque fois que je sortais, il y avait assis par terre un gamin mendiant, qui mendiait pas, mais qui faisait ses devoirs, mais qui était visiblement un gamin des rues. Cette image ne m'a jamais lâché. Vraiment. Et pour moi, ça a été toujours mon obsession, faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école. Vraiment, je dis pas ça de façon... emphatique ou romantique, c'est vraiment une image qui m'a jamais lâché. Et qui, vraiment, pour moi, il n'y a rien de plus faible que les enfants, et il n'y a rien de plus faible que les enfants qui ne sont pas encore nés. D'où l'importance, pour moi, des générations suivantes dont personne ne s'occupe parce qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont pas le droit de vote puisqu'ils n'existent pas. Donc c'est ça qui m'a conduit. Et puis, en Afghanistan, j'ai eu deux chocs esthétiques, vraiment, qui ont... D'abord, c'est les Bouddhas de Bamiyan. Il y avait deux Bouddhas énormes qui étaient là et qui ne sont plus là parce qu'ils ont été détruits. C'était un choc qui m'a amené à découvrir l'Asie que je ne connaissais pas. Si j'avais été en Chine, j'avais été un des premiers occidentaux à aller en Chine pendant deux mois avec mes étudiants polytechniciens en plein milieu de la révolution culturelle. Ça avait été passionnant. J'ai d'ailleurs failli faire l'erreur de croire tout ce qu'on me disait. Mais heureusement, je n'ai pas écrit les articles à la Michel Foucault ou à la... Marie-Antoinette Mathieu qui avait fait des articles. J'ai fait des articles, mais qui étaient un peu plus distants. Et le deuxième image, c'est que je suis monté dans la montagne en Afghanistan et j'ai vu le plus beau paysage du monde pour moi, qui est son Bendiamir. Ce sont des volcans, qui sont des lacs qui se déversent l'un dans l'autre. Il y en a cinq. Et là, j'ai vraiment découvert la nature. Donc j'ai eu... La fragilité de l'enfance, la fragilité des œuvres d'art et la fragilité de la nature. Ça, c'est très jeune. J'ai 25, 26 ans quand je découvre ça. Et ça ne m'a jamais quitté.
Ça, cette expérience de l'étranger au sens large du terme, des voyages, des civilisations, ça a été aussi une manière personnelle de nourrir une pensée originale,
oui, bien sûr, parce que je...
décentrée.
Oui, parce que je suis toujours à côté, en dehors. Quand j'écris l'anti-économique avec Marc Guillaume, on ne croit pas au logique. J'essaie toujours de penser à côté, quoi. Je me nourris des pensées existantes, mais j'essaie vraiment de m'en libérer, vraiment de construire une pensée originale très vite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit Une brève histoire de l'avenir. C'est pour récapituler des idées que j'avais eues 20 ans avant et dont on avait oublié que je les avais eues. Mais parce que quand j'écris L'ordre cannibale en 79, et que je parle des prothèses, des organes artificiels, du clonage, personne n'y attache l'importance encore, même s'il y a eu du succès, personne n'y attache l'importance parce que c'est très très loin, et puis parce que ça fait pas partie de la pensée dominante de l'époque. Aujourd'hui, ça paraît des évidences.
Jacques Attali, la question artistique, elle n'est pas si éloignée du politique que cela, puisque ça a été aussi le fruit de conversations, y compris avec le président Mitterrand.
Oui, on parlait beaucoup de littérature, on parlait beaucoup de la Bible, parce qu'il avait une connaissance de la Bible très, très importante. Il était catholique, mais élevé dans une famille à la frontière de la Charente, qui était protestante. Donc sa mère lui avait fait lire la Bible. Et comme il était lui-même hypermnésique, il nous arrivait dans les avions où il y avait des ministres qui piaffaient de lui parler de ses affaires, de leurs affaires, de discuter. Je me souviens d'une conversation avec lui où on s'est disputé sur un pari, sur savoir quel était le prix de la location de la grotte de Marpala qu'Abraham avait louée pour y enterrer sa femme. Est-ce que c'était 40 cycles ou 400 cycles, alors que Gaston Defer voulait lui parler de la loi de décentralisation. On avait parlé de ça longtemps. Et puis, on parlait de littérature. François Mitterrand ne connaissait pas beaucoup de littérature étrangère. Assez bien littérature américaine. Il était ami d'écrivains américains. Par lui, j'ai connu William Styron et quelques écrivains américains. Mais il avait une connaissance de la culture... la littérature française absolument hallucinante. Il m'a fait découvrir Jacques Chardon, dont je ne connaissais pas, même pas l'existence, qui est un très bon écrivain. Et pour vous dire jusqu'où ça allait, un jour, il y avait un éditorialiste qui, du Figaro Magazine, qui avait fondé le Figaro Magazine, il s'appelait Louis Powels, qui était un homme qui a été célèbre parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Le Matin des Magiciens, mais qui était aussi... le Figaro Magazine, à l'époque, était vraiment d'une violence personnelle contre François Mitterrand, épouvantable, une extrême agressivité. Il y a un jour, un éditorio était tellement épouvantable que je disais, François, écoutez, on va lui faire un procès à ce personnage, pas possible, vous pouvez pas laisser passer. Oh non, vous savez, Louis Powels, il a écrit un très grand roman, L'amour monstre. Je n'ai jamais entendu parler. Non, je crois que personne ne l'a lu, mais c'est un très grand roman. Il me dit, d'ailleurs, vous savez, j'aimerais bien le rencontrer. Vous pourriez l'inviter à déjeuner chez vous, avec moi? Je lui dis, que vous déjeuner avec ce type qui vous insulte tous les jours, toutes les semaines, c'est pas possible. Si, si, invitez-le. Et donc, on a déjeuné. Là où nous sommes, tous les trois, un samedi. Je me souviens, il y avait des langoustines à ce déjeuner. Powell s'est arrivé, gardé, se demandant s'il allait finir en prison. Il avait d'ailleurs été surpris que je l'appelle pour venir déjeuner avec François Mitterrand. Il pensait que c'était un piège, qu'il y avait un truc derrière. Et François Mitterrand a commencé par lui dire le plus grand bien qu'il pensait de son roman, sincèrement, roman qu'il connaissait encore par cœur, et lui dire des choses vraiment profondes sur ce roman qui, je pense qu'il date de 1950 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un roman qui avait 30 ans à l'époque. Powell s'était stupéfait, sous le charme, et il n'a plus jamais écrit un article hostile à François Mitterrand. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas un peu de rouerie chez François Mitterrand en faisant ça, mais la rouerie était d'autant plus efficace qu'elle était sincère.
Comment est-ce qu'on relie justement ce dialogue entre les arts et la pensée politique ou géostratégique, Jacques Attali?
Je pense que c'est très important de connaître la littérature d'un pays si on veut comprendre ce pays. Et c'est pour ça que, pour moi, connaître la littérature américaine, anglaise, russe, japonaise...
La littérature, mais pas que la littérature.
La musique.
On connaît votre intérêt pour la musique.
Oui, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait trois choses qui me permettent de, au moins, si je suis simpliste, qui me permettent de juger d'un pays. C'est la démographie, parce que évidemment c'est la chose la plus prédictible. C'est la gastronomie, parce que la cuisine dit beaucoup de choses de l'agriculture, de la famille, du raffinement. Et puis moi j'ai une passion pour la cuisine, surtout. Je considère les chefs comme des grands artistes. Un repas chez un chef, c'est grand ou petit, mais c'est comme une représentation théâtrale. S'il se plante, on n'y vient plus. Et puis le spectacle vivant est pour moi très important. Et la gastronomie, c'est un spectacle vivant, comme la musique. Et la troisième dimension, c'est la musique. Donc, si vous cherchez à comprendre un pays, regardez sa gastronomie, sa musique et sa démographie. Si un pays a ces trois positifs, c'est un grand pays. Et regardez bien, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont les trois qui sont positifs. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, que j'ai jamais cru à l'avenir de la Chine comme superpuissance, parce qu'il n'y a pas de démographie et que la musique chinoise, j'ai essayé, merci beaucoup, c'est inécoutable. Ça veut dire que ça ne sort pas de la Chine. C'est inécoutable pour nous. Et ça renvoie au fait que la Chine est une nation qui est un empire du milieu, qu'il faut comprendre. Empire du milieu, ça veut dire quelque chose qui est fermé, qui reçoit, mais qui n'a pas de vocation universelle. Ce qui est bien pour nous, ça veut dire que ce n'est pas un pays conquérant.
Jacques Attali, cette question de l'ailleurs, c'est aussi une question que vous avez travaillée dans vos écrits.
Oui.
L'ailleurs, clairement cité, nommé dans certains essais, mais aussi inventé. Il y a eu des planètes imaginaires, des lieux imaginaires, ou des trajets, des périples accomplis par certains personnages.
Oui, mes romans, c'est d'abord j'adore écrire des romans. Le premier était La vie éternelle, qui est pour moi La vie éternelle, virgule roman, ça s'appelle comme ça. Je ne peux pas ne pas citer mon éditeur Claude Durand, qui est mort récemment, qui était un personnage magnifique, qui était un de mes deux ou trois meilleurs amis, qui a trouvé ce titre dans la nuit de l'édition du livre, parce qu'on avait un autre titre qu'on m'avait appris juste au moment du tirage du livre que le titre était pris, donc il a fallu le changer. Mais c'est un livre qui, en effet, renvoie beaucoup, beaucoup de choses qui me sont très précieuses. Le rapport au temps, donc la science-fiction, en avant et en arrière, parce qu'on ne sait pas si ce livre se passe dans 3000 ans ou il y a 3000 ans, et peut-être les deux, on le sait à la fin, avec mêlant les personnages bibliques, les personnages imaginaires, dans une planète imaginaire, mais qui est en fait renvoyée à un endroit très précis que je connais, qui est la frontière entre l'Iran et l'Irak, ce qu'on appelle les Arabes des Marais, magnifiquement décrit dans un livre de Wilfred Tessiger, le grand explorateur anglais.
Et en filigrane, cette question de l'ailleurs.
Alors l'ailleurs, bon, il y a un livre qui s'appelle Au-delà de nulle part, qui est aussi un roman qui se passe entre ici et une autre planète. Il y a aussi beaucoup. L'ailleurs, c'est aussi l'ailleurs dans le temps. Donc la science-fiction, c'est l'ailleurs dans le temps. Et l'ailleurs, c'est l'ailleurs dans la mort aussi, puisque Le premier jour après moi, c'est un roman qui se passe le lendemain de la mort. Donc, mais je crois qu'un livre et un roman plus qu'un autre, c'est un voyage. Donc, on prend le lecteur par la main et on le serre pas trop fort parce qu'il faut qu'il ait le droit de s'en aller. Donc, il peut poser le livre, mais il faut quand même qu'il ait envie de vous garder la main et d'aller avec vous. Un roman, c'est emmener quelqu'un en voyage. Et si possible, avec du sens. Voilà. Parfois, j'écris des romans plus réalistes, comme La femme du menteur ou Nouvelle. Mais malgré tout, La femme du menteur, c'est un roman sur le mensonge et la mythomanie, qui est une forme de voyage.
Jacques Attali, merci. On se retrouve demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Besseri avec Jacques Attali. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Georges Thau, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.